L'Oppo Avendano, le show 100% débat.
On est live, Fred. L'Oppo Avendano, comment ça va?
Ça va, toi?
Ça va, hein? Tranquille. Fait un peu plus froid aujourd'hui, mais on est là.
Ouais, ma température s'en vient mieux, mais écoute, c'est le retour du beau temps, puis c'est le retour aussi de l'Oppo Avendano.
Exact. Je suis pas mal content, honnêtement. Ça fait quelques semaines que j'y pensais. Je sais pas si toi, t'étais chaud. Je t'ai texté parce que j'avais fait un CCPP, puis j'étais comme, ah, ça manque, man. Ça manque de parler à Fred, ça manque de... Je t'ai texté, puis j'ai vu que t'étais enthousiaste quand même. On a fait ça vite.
Ouais, ben écoute, ça, moi aussi ça me manque. Écoute, on a plus de foot en ce moment. On se voit plus au stade, évidemment, parce que pour ceux qui ne savent pas, on est détenteurs de billets de saison ensemble là, depuis quelques années. Fait que écoute, j'ai encore plus le goût de parler de foot puis de partager notre belle passion ensemble avec les auditeurs.
Exact. Puis ouais, c'est ça, le monde qui le savent pas, nous, on faisait des podcasts au stade, là. Tu sais, on se parlait comme quand on se parlait à l'émission au stade. Fait que c'était le fun aussi, mais là, effectivement, ça y en a plus. On veut plus au stade du tout, il n'y a plus de match. Il y a David de Montréal Sportsbot qui nous dit allô. David, il est là à l'heure, en fait. Fier de lui. Cool,
salut,
hein?
David.
Ouais. Merci encore. Je sais pas si tu as écouté le Flashback Podcast. Je te le recommande, là. C'est vraiment top,
ouais.
Hein? C'est vraiment cool.
Ouais. Ouais, vraiment, c'est un super beau concept. Bravo, David, pour tout ça. Je pense que pour tout le monde qui sont fans de foot, qui sont un petit peu nostalgiques aussi, hein, parce qu'on parle des sujets du passé là, dans ce podcast-là.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est le fun aussi de se creuser un peu dans la tête pour voir, là, penser aux meilleures roses puis aux meilleurs moments et tout ça.
Ouais, c'est le temps vraiment, parfait. Vraiment, pour le temps. C'est le temps parfait. Tu vois, c'était qui les chouchous, genre? Ben, qui les joueurs chouchous? Comment? C'est quand même cool, tu sais.
Ouais, ben écoute, vu qu'on n'a pas tant de foot à se mettre sous la main en ce moment, c'est le meilleur moment de garder notre passion en vie. Fait que, bravo à David, si je sais qu'il y a plusieurs épisodes qui sont disponibles, là, fait que allez voir ça.
D'ailleurs, je pense qu'il va t'inviter, là. Je veux que tu le fasses, Fred. Je veux t'entendre. Les questions sont tough, man, pour vrai. C'est pas aussi facile que celle-là, là.
Non, j'ai écouté, c'est pas toujours facile, mais... Écoute, il y a toujours une facilité. Moi, c'est quand je suis dans le doute, je pense à la Simila. Merci, on cherche là-dedans, puis on trouve quelque chose.
En plus, tu vois, au début, j'avais un peu triché. Là, je me dis, bon, j'ai écouté les autres podcasts, je vais un peu me préparer. Finalement, David n'a pas posé les mêmes questions. Et j'étais un peu dans la merde, mais on dirait que mon réflexe, j'étais comme, j'ai essayé de ne pas répondre juste des joueurs du Barça, genre, puis finalement, c'était beaucoup joueurs du Barça ou du Mexique, genre. Mais comme tu dis, c'est un réflexe.
C'est certain. Mais écoute, c'est toujours drôle aussi d'aller des fois dans des trucs perdus un peu dans notre tête, des moments qu'ils ont marqués ou des joueurs qu'ils ont marqués dans des moments un peu bizarres, là, style dans un bar, dans une finale de Coupe du Monde que tu t'attendais pas nécessairement à être là. Fait que,
c'est clair.
Ouais, super beau concept.
Ouais, il m'a rappelé, j'y repense depuis, là, quand il m'a dit le pire moment, le but de Maxi Rodriguez contre le Mexique, là, depuis, c'est en boucle dans ma tête. Là, j'avais réussi à l'oublier, là.
Ben, j'ai vu, moi je suis content, si je me rappelle bien, t'as mis Maldini dans ton 11 de temps. Je pense que c'est un no-brainer. Bon, évidemment, on va parler d'un sujet similaire à ça dans l'émission aujourd'hui. Fait que bien hâte de débattre avec toi. Puis écoute, on est au début de l'émission. C'est sûr que les sujets foot sont pas super intenses en ce moment avec certaines reprises de ligue, mais sinon ça va être un peu plus tard. Juste dans le fond, on parle aux auditeurs, le concept de l'émission, on va encore avoir des invités là, dans le futur, comme vous avez eu la chance d'avoir là, dans les premiers podcasts de l'Oppo Avendano. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait souvent eu Pierre Maillot, on avait eu Éric Chenoir, on avait eu Nicolas Martineau à quelques occasions, Nilton qui a fait son premier passage dans un podcast avec nous. On va avoir la chance d'avoir des Sofiane. J'espère Reg, peut-être qu'il va sortir de la retraite pour faire des trucs avec nous. Fait que, on va essayer de rapatrier nos anciens coéquipiers pour vous faire un peu de plaisir. Puis sinon, le conseil de l'émission va être assez simple. On va vous faire un petit tour de l'actualité. Après ça, on va vous parler des clubs et des joueurs en hausse et ceux en baisse. Et puis, on va finir chaque émission idéalement avec un petit débat. Puis, Je vous garde le suspense, mais aujourd'hui, on va parler un peu défensif.
Ouais, l'émission 100% débat. On n'oublie
yes.
pas.
Yes, yes, yes.
Ouais, sinon, le confinement, niveau sport, c'est un peu plate, mais as-tu vu, je sais pas moi, un documentaire de foot ou un film de foot ou de sport en général, en fait, parce que c'est un petit peu le temps, là.
Non, ben écoute, je me suis pas découvert de passion de regarder, je sais pas moi, des vieilles reprises de curling ou des trucs comme ça. J'ai écouté ce que RDS s'était fait présenter, là, bon, les reprises de la Coupe du Monde, les reprises de d'Euro. Honnêtement, un peu comme toi, Alex, je pense qu'on a commencé pas mal notre passion pour le foot début des années 2000 dans ce coin-là. Fait que j'avoue, j'ai pas regardé énormément de foot dans les années 90. Fait que voir des finales de la Coupe du Monde, notamment là, je pense à je pense en 90, je pense Argentine-Allemagne. Je sais pas si 90. Ouais, je pense 90.
Ouais, en Italie, ouais.
En Italie, ouais, que l'Argentine, je pense, avait éliminé l'Italie.
Ouais, penalty à Naples en plus.
Ouais, à Naples. Ouais. Honnêtement, c'est un foot complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Fait que je trouve ça intéressant de revoir des vieux trucs. T'sais. C'est sûr que, bon, je pense que notre Coupe du Monde qui a le plus marqué, ça doit être 2006, là. Bon, moi, parce que, bon, il y a un résultat favorable. Toi, ben, c'est pas mal là où je pense. Vraiment accroché.
Ouais, c'est là que j'ai compris le tout début, en fait. C'est là que j'ai accroché en 2006.
Ouais. C'est ça. Puis, ce moment-là, ben écoute, c'est intéressant. On a vécu quand même la progression parce qu'on suit ça depuis, mais voir le foot avant, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Ouais. Puis vraiment, on voyait les mentalités. C'était carrément. Il y a beaucoup d'équipes qui jouaient, ben, il ne faut pas accorder de but, puis on verra ce qui va se passer.
Ouais, on attendait les erreurs parce que ben, à l'époque, il y avait beaucoup d'erreurs aussi. Hein. Genre les défenseurs, c'était pas des. Ben, tu parlais de Maldini. Moi, j'ai mis Marquez Maldini dans mon 11 parce que c'était dans les premiers où c'était. OK, il jouait avec les pieds. Genre, c'était, Marquez, il joue en 6, ils l'ont mis derrière. Que c'était un gars qui sortait avec les pieds. Maldini aussi, des Nesta, des bons, tout ça. Et là, mais à l'époque, c'était des. On dégage. Genre, on dégage vers le 9, que lui, il contrôle, il descend au 10 ou au 8. Puis, quand je me rappelle, je t'ai texté, Maradona, tu le voyais, que lui, il était des années en avance. Là. Tu sais, juste comment il comptait, comment il jouait, sa technique, comment il se tournait. Tu sais, c'était, on dirait que tu voyais Iniesta. Tu sais, un gars au milieu de terrain qui se faufilait entre tout le monde. Puis, et la mentalité des défenseurs, c'était pas on protège la zone, c'était on saute dessus puis on le découpe. Là.
Ouais, vraiment. C'est pour vrai, moi, ça m'a traumatisé. Puis en plus, bon, la Coupe du Monde dont on fait référence en 90, les Allemands qui sont hyper structurés, hyper. C'était vraiment un beau jeu. Tu les vois se lâcher, là. Puis moi, ça m'a fait caboter. Puis, tu sais, voir Maradona jouer, c'est sûr que c'est un gars qui avait du talent. Ça, c'est indéniable.
Ouais, ouais.
Mais faut quand même être honnête. Peut-être son éthique.
Dégueulasse.
J'aurais aimé voir un joueur avec ce talent-là, avec l'éthique de travail, par exemple, d'un Cristiano Ronaldo.
Ouais.
Bon, déjà, c'est un joueur hyper dominant. Il a dominé son époque. Mais écoute, Maradona, talent comme ça, avec un éthique de travail, j'aurais vraiment aimé voir, surtout dans l'époque du foot moderne, j'aurais aimé voir ça.
C'est clair, mais c'est là que tu vois que, quand, mettons, à l'époque, c'était le talent qui faisait la différence. Mais tu sais, Maradona n'a pas dominé comme Cristiano et Messi pendant 15 ans. Là. C'était une plus courte période de temps parce que le physique l'a rattrapé. D'ailleurs, je recommande le documentaire de Maradona que HBO a fait. Là. Il est exceptionnel. Mm-hmm. Et tu vois, à la fin, il est à Naples, il a son chandail il est un peu gros. T'sais, il a une bedaine et tout. Et il gagne le Scudetto, il gagne la Coupe d'Italie, il gagne une Coupe d'Europe. Je veux dire, il était juste trop fort. Il était juste trop fort. Mais comme tu dis, il y avait l'éthique de travail. T'en parlerais comme. Je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de doute que ça aurait été lui le meilleur joueur de l'histoire.
Puis je ne veux pas en plus. Je pense que surtout quand on passe aux années 90, l'Italie, à ce moment-là, c'est indéniablement le championnat le plus, plus compétitif. Donc, le voir dominer dans ce championnat-là à cette époque-là, vraiment exceptionnel. Sinon, Alec, je sais que tu as regardé d'autres matchs un peu comme moi aussi, mais est-ce que tu as eu la chance là, de voir le documentaire sur le Barça que Netflix a sorti, le Match Day?
Ouais, mais j'ai trouvé ça plate, en fait. En fait, je pense que c'est cool pour... mais je veux pas que ça soit négatif ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est cool pour les nouveaux fans du Barça, entre guillemets. Tu sais, genre, c'est des images que tu vois pas. Tu sais, c'est très nouvelle génération. Tu sais, tu vois les gars chez eux, ils se font à manger. Mais moi, ça m'intéresse pas vraiment, tu sais. Moi, tu sais, ce que j'aime, comme par exemple de Sunderland Till I Die, c'est que tu vois le décor du foot, comment le foot fonctionne, comment les gars parlent du terrain, comment... Là, ça commence la première image, Sofiane, il m'a tué parce qu'il a dit qu'il arrêtait de regarder là, tu sais, c'est les 30 premières secondes, Suarez et Messi sont en loto et ils parlent de à quelle heure les enfants, ils se couchent, là.
Non, puis c'est une mise en scène pour rendre les joueurs un peu plus humains. Je le vois comme un genre de campagne de marketing un peu.
Ouais, mais honnêtement, moi je trouve que c'est exactement le truc que tu mets sur Instagram, tu sais, pendant des vidéos de 30 secondes après chaque match, puis qui est cool.
Ouais.
C'est, okay, c'est cool, tu vois les gars parler, c'est le fun, ça te hype pour le match. C'est du marketing, encore une fois, des placements de produits et tout, c'est le fun, l'image extra HD, magnifique, mais genre là, tu me donnes, honnêtement, comme j'avais dit au CDP, pour moi, c'est comme si tu m'avais donné des stories Instagram pendant comme 6 épisodes.
Je sais pas si tu te rappelles, là, je veux pas aller dans l'autre sport, là, mais à l'époque, hein, les Canadiens avaient commencé la première saison de 24CH.
Ouais.
On voyait vraiment les gars péter des coches, on voyait les résumés des matchs, on voyait les gars rentrer de vestiaire, un peu les speeches, tout ça. Ça, je pense que c'est quand même pertinent pour voir l'émotion, pour s'attacher aux gens. Puis c'est un peu, je pense, que le Barça essayait de faire. Mais en même temps aussi, c'est intéressant de voir la vision des entraîneurs, voir comment ils font les choses et tout. Puis tu les vois, même en match day, tu vois le gars de Rakuten qui rencontre les joueurs dans un souper, puis là, Piqué arrive, puis là, t'es comme, pourquoi vous montrez ça, là?
Ah, puis Piqué, il blague, il dit genre, ouais, anyways, personne écoute Valverde et tout. C'est genre, quoi?
Ouais,
c'est, non. C'est quoi ce truc? C'est un truc bizarre. Non, Étienne, personne filtre les tweets.
Non.
On n'est pas.
Peut-être pas le meilleur. Le meilleur documentaire, mais écoute, je pense que pour les fans du Barça, hein, qui vont être heureux là, ça.
Ouais. Puis tu sais, on s'entend que... En fait, j'aime ce que tu disais quand c'est pour montrer les gars et tout. Sauf qu'au Barça, t'as pas de personnalité fan.
Non.
Genre, tu sais, entendre le bout sur Ter Stegen qui parle de la rénovation de chez lui, là. Oh my God, c'est tellement plate. Puis même quand... Attends, fais une entrevue à Rakitic, s'il te plaît, là.
Ouais, puis les échanges avec les enfants sur FaceTime, là, comme...
Moi, honnêtement, ouais, ça m'a détruit un peu ma naïveté d'enfant qui, après les vestiaires, c'est tout le monde crie et tout. Après le vestiaire, là, tout le monde est sur FaceTime, puis ils parlent à leur enfant, puis je suis comme, oh my God, c'est horrible. C'est horrible.
Ou ils regardent leur Instagram, voir quelle fille les a DM.
Genre, en tout cas, moi, sur leur Tinder premium, hein.
Oh, t'as raison, Sunderland Teladay, je pense que c'était une bonne formule. J'ai hâte de le voir aussi. Même il y avait à l'époque là, ce qu'Amazon avait fait pour Man City, c'était intéressant
quand même. Ouais, je l'ai écouté, c'était quand même cool. C'était vraiment cool parce qu'en fait, ce qui était le fun justement, c'est que ben, en même temps, t'as Pep. T'sais, Pep est très, très, très charismatique. Il est très extra, il est très dramatique. Fait qu'il va t'en mettre, genre, t'sais, il va t'en rajouter. Puis t'sais, lui, comme ça, naturellement. Fait que c'était vraiment intéressant. Mais en fait, moi je ne veux pas en dire, je suis fan de Pep aussi, donc c'était vraiment cool de voir Pep parler. Mais tu sais, moi, le documentaire, mon préféré, c'était le Move the Ball, Pass the Ball de Barça, de la période de Guardiola au Barça, où il parle à Xavi, Iniesta, Alves, Messi, mais il parle de tactique. Tu sais, une scène où Xavi, au resto, il prend des verres ou genre du sel et poivre, je ne sais pas trop, puis il te montre c'était quoi Messi, le faux neuf, genre. Ça, c'est le fun, genre, tu sais, parce que moi, nous, on comprend pas ça. On comprend pas ce qui se passe sur le terrain. Nous, on voit les trucs, mais on comprend
pas. On voit le résultat, mais on comprend pas.
Ouais, on comprend pas exactement, tu sais, ce qui se passe. Puis, eux, ils l'expliquent, puis t'es comme, OK, c'est incroyable, genre. Puis, t'as Thierry Henry, t'as tous les grands joueurs, et à la fin, t'as Pep qui parle. Puis, ça, c'est cool, parce que tu vois, c'est un peu des trucs que, genre, nous, on n'a pas vu, puis c'est pas de surface uniquement, tu sais, c'est profond, c'est pas juste positif non plus. Puis, Sunderland aussi, c'est ça qui était cool, tu sais. J'ai un ami qui me dit, c'est de la merde, ils font juste perdre. Mais c'est pour ça que c'est le fun, genre, c'est plate à dire, mais parce qu'à la fin, ils perdent, mais les gars sont encore là. Tu sais, la phrase de la madame à la fin qui dit « J'espère qu'un jour, ça va être nous. » On aimerait ça célébrer une victoire et tout. C'est comme, merde, genre, c'est fou. Puis les gars, ils sont fans encore.
Ouais. Puis on en parlait, tu sais, cette semaine. Je pense que le plus beau, disons, la plus belle chose qu'un fan peut espérer, c'est que son équipe soit une équipe moyenne, puis que là, haut. Là, tout fonctionne et on gagne un championnat. Pas une équipe qui gagne, qui a une chance de gagner année après année, comme un Bayern, par exemple. Ouais. Je trouve que pour un fan, c'est moins plaisant. Je trouve que dans l'adversité, c'est là que tu t'attaches le plus à ton club. Tu as eu des émotions. quand ça va mal, mais quand ça va bien, le positif est encore plus.
Parce que juste voir l'équipe gagner tout le temps, c'est plate. Tu sais, genre, Rocky 1 est exceptionnel parce qu'il perd à la fin.
Ouais, c'est vrai.
C'est con, mais genre, tu sais, t'es comment, ce gars-là, il perd, c'est un film américain, c'est un héros, puis il perd. Mm. Oui, il perd. C'est correct.
Dans la narrative, le héros, de temps en temps, il doit pas toujours gagner. Fait que...
Non, c'est clair.
Mais ouais, il y a beaucoup de contenu disponible sur les différentes plateformes. On vous invite à aller regarder si jamais vous n'avez pas fait ça. Puis salutations à toutes les gens qui nous ont écrit depuis le début du live. On a bien hâte de vous retrouver.
C'est clair. Puis ouais, ben David a un bon point. Là. C'est vrai qu'un des producteurs, c'est Gérard Piqué pour le truc de Match Day. Puis... C'est là. Je sais pas.
C'est pour ça que je pense que le premier épisode est quasiment consacré à lui. Là. Bon.
Ouais. En tout cas. Ouais.
Bref. Alec, qu'est-ce que t'en penses si on fait un petit tour des actualités?
Ouais, vas-y.
Écoute, la première actualité dont j'aimerais te parler, on va faire ça en rafale. Évidemment, aujourd'hui, ça aurait été la finale de la Ligue des Champions si on n'avait pas eu à vivre cet petit épisode de l'humanité. On souhaite que tous les auditeurs, tout le monde, ça se passe bien et que vous n'avez pas de problème à ce niveau-là, que vos proches vont bien également. Mais bon, évidemment, il faut se remettre dans le contexte aujourd'hui. Probablement une finale, je ne sais pas qui tu voyais en finale, mais ça aurait été dans quelques heures là, la finale.
C'est une tristesse. Je vis ça ce matin en me levant, puis j'étais comme « Ah, ça commence mal ma journée, ça. » Honnêtement, et ça aurait été... En fait, c'était une Ligue des Champions très intéressante parce que moi, je pense que Liverpool aurait fait le back-to-back. Parce que c'est
tu penses?
Ouais, comme à l'instar du Real Madrid, en ce moment, c'est la seule équipe qui a son pic à toutes les positions. Là. C'est tous leurs joueurs dans leur 11 et à leur pic. Comme le Barça de Pep, comme le Real de Zizou. Maintenant, comme le Liverpool de club. Et c'est quand ces étoiles s'alignent que comme ces gars-là, ils vont enchaîner les victoires. Et là, le Madrid de Simeone, qui était fini, selon certains, les sort. Là, t'es comme, OK, il n'y a plus d'extrême favori. Qui va gagner? Genre là, t'as l'année passée, Barça l'a remis 3-0 avec un Messi fou. S'il n'y a pas Liverpool, ils vont en finale. Ils peuvent battre Tottenham. Est-ce que là, le Barça, OK, ils commencent à y croire. On n'a plus Liverpool, on n'a plus les cauchemars l'année passée. Là, t'as City qui sont comme merde, notre bête noire, le Liverpool qui nous bat tout le temps, sont out. Nous, on peut gagner cette année, c'est notre année. Premier League, c'est déjà fini. T'as le Bayern qui revient aussi avec. Fait que ça aurait été vraiment intéressant parce que cette année, t'avais plus de favoris vu que Liverpool était éliminé. Même le PSG, Neymar était enfin en santé.
Enfin,
en grande forme. T'as Kylian Mbappé qui est de plus en plus fort, qui doit prouver maintenant au club. Il a gagné sa Ligue des Champions. Mais là, le monde commençait à poser des questions cette année. OK, il a gagné une Ligue des Champions, mais là, est-ce qu'il peut amener le PSG à cette... Il a gagné une Coupe du Monde, pardon. Est-ce qu'il peut amener le PSG à une Ligue des Champions? Et là, c'était vraiment là. C'est là que ça allait arriver. Honnêtement, ça aurait été... Des fois, j'y repensais, puis j'étais comme, merde, on avait tellement une belle Ligue des Champions. Là. On n'avait pas... Tu sais, l'année passée, moi, en même temps, je t'en avais parlé même, j'étais comme, Liverpool va gagner. À moins de miracle, Liverpool va gagner. Puis les trois fois que les Real ont gagné de suite, ça me faisait chier. Mais à chaque année, j'étais comme, merde, ils vont gagner encore. Genre, ils sont trop forts.
Ouais.
Puis là, j'étais comme, merde, enfin, on a quelque chose d'intéressant. Là.
Parce que le Real aussi, comme tu as dit, tu as parlé, l'idée, c'est d'avoir les joueurs à leur prime tout en même temps. Puis le Real était beaucoup de joueurs, disons, des vétérans, slash gars, tu sais, dans le milieu fin vingtaine, des gars qui avaient du métier encore physiquement à leur apogée, du caractère, avec un Ronaldo qui avait été encore plus soif que jamais de vouloir gagner. Mais tu sais, tu m'as parlé de plein d'équipes, mais pour moi, personnellement, le favori, c'est le Bayern. Si on avait à continuer cette Ligue des Champions-là, surtout bon, avec la reprise des activités, je ne sais pas comment la Ligue des Champions aurait eu lieu et tout ça, mais le Bayern, avec bon, les prestations individuelles de chaque joueur, encore une fois, je pense que c'est une équipe qui n'est pas nécessairement à son apogée à tous les postes, mais on a quand même des solides gars. Puis il ne faut pas t'oublier, cette année, c'était l'année de Lewandowski. Lewandowski est actuellement égal au record de Cristiano Ronaldo pour le nombre de buts en une Ligue des Champions. C'est son année. Je pense que Lewandowski était prêt pour faire la différence. Un peu comme il avait fait, je ne sais plus,
c'était dans quelle année. Il a aimé les 4 buts contre le Real.
Je ne sais plus c'est quelle année, mais 2013 environ. Je pense que c'est comme sa première année ou sa deuxième année au Bayern. Je le voyais vraiment refaire la différence cette année. Puis j'ai l'impression que, bon, ce que Pep a bâti, puis bon, là, ils sont en train de, surtout avec les jeunes qui commencent à intégrer l'équipe, je trouve que c'est une belle équipe. Je pense que ça, cette année aurait été leur année. T'as raison aussi, Cilly. Intéressant aussi comme équipe aussi. Je pense que tu as parlé d'équipe à leur apogée. Des De Bruyne, c'est le moment. Des David Silva, on sait que c'est vers la fin. Agüero, je pense que c'est pas mal dans les dernières années où il est vraiment à son prime. Je pense qu'il faut s'attendre à une baisse de régime à ce niveau-là. Puis défensivement, City, moi, je pense qu'ils sont pas mûrs encore, mais c'est mon humble avis.
Ouais, mais tu sais, c'était justement le fait que Liverpool sont plus là, fait que ça ouvre les portes. Tu sais, parce que City, ils n'ont que la Champions League à jouer. Et si le ban reste, ben, ils sont bannis pour les deux, ben, suspendus pour les deux prochaines années, je pense, ou la prochaine année. Fait que, tu sais, c'était l'année où il a gagné. Ça aurait été intéressant. Même Atlético Madrid qui sort Liverpool, que la Liga, ça va être entre le Barça et le Real, c'est correct. Eux, ils vont pour la Ligue des Champions seulement. Et c'est une équipe chiante à jouer aller-retour. Genre. Et tu sais, même si on l'a fini et c'est juste un match à élimination, à l'Atlético, ils vont être chiants à jouer. Là. Tu veux pas jouer contre l'Atlético.
Ben, l'Atlético, cette année, j'y crois pas. Je pense qu'ils sont à la fin d'un cycle. Je pense qu'ils vont avoir besoin d'une injection de quelque chose. Je pense qu'ils ont joué au-dessus de leur tête cette année. Puis bon, on verra.
Ouais, c'est clair. Le Sofiane, j'aime bien aussi, il amène la Juventus. Mm-hmm. C'est vrai que la Juve, ça a été intéressant. Après, ils avaient perdu le premier match à Lyon, je pense, 1-0. Mais bon, tu sais, avec Cristiano. Le Cristiano en Ligue des Champions, tout peut arriver. Ouais. Puis ils ont une belle équipe aussi, on ne va pas se mentir. Mais moi aussi, je pense d'accord avec toi aussi. Le Bayern, pour moi, c'est l'équipe la plus équilibrée. Mmh. Et en fait, moi, j'aime bien les équipes équilibrées pour la Ligue des Champions parce que tu n'as pas de. Tu sais, aller-retour, c'est. Tu fais une erreur ou deux erreurs, encore des finales, demi-finales, c'est fini. City, les dernières années. Je pense que l'année passée, Aymeric Laporte, il fait trois erreurs graves dans une saison et les trois contre Tottenham, ils vont pas en finale de Ligue des Champions. T'sais. Encore des finales, ils vont pas en demi-finale. Fait que tu sais, ils ont une saison presque parfaite. Et Bayern, là, ils font pas d'erreur. Les gars, ils sont en confiance, ça va bien. Et la confiance aussi, je pense que dans les 42 derniers points possibles prenables en Bundesliga, ils en ont pris 40. C'est incroyable. Je veux dire, quand une équipe est en ascension comme ça, en Ligue des Champions, ça les motive encore plus.
Ben écoute, tu vois que les équipes qui sont en ce moment dans, disons, les meilleures formes, des entraîneurs quand même sérieux aussi, qui ont eu le temps de bâtir leurs équipes, je pense que c'est vraiment ça. On est dans les apogées de leur cycle. À voir. Bien de voir si tout ça va reprendre, si on va avoir la chance d'avoir un genre de tournoi et tout, mais bon, on verra. Prochaine nouvelle, Alec, bon, avec tout ce qui se passe un peu, on a quand même allégé les règles, la FIFA et tout ça, puis bon, il y aura peut-être l'opportunité d'avoir 5 subs en fin de match. J'ai vu là une citation de l'entraîneur du Barça qui disait, bon, évidemment, dans les fins de match, c'est peut-être le moment où justement, quand ton équipe est au-dessus physiquement ou a une meilleure tactique, c'est le moment où on veut profiter là, justement des faiblesses, que ce soit de concentration ou de physique de ton adversaire. Puis là, avec le fait que les équipes pourront probablement faire 5 changements, comment tu vois ça? Je t'avoue que pour moi, une équipe qui perd, si je suis dans cette position-là, je suis quand même content. Ça fait jouer plus de joueurs aussi dans ton effectif. Je pense que ça peut faire progresser davantage de jeunes qui n'auraient pas eu de minutes normalement. Mais à l'inverse, je me mets dans la position justement de l'entraîneur du Barça. Je me dis, ouais, mais quand tu es en contrôle du match et que tu n'as pas un banc exceptionnel, ça change un peu la donne.
C'est clair. Après, au début, j'étais contre un peu, même si physiquement, je comprends, là, les gars ne vont pas être full en forme. Là. Mais après, j'ai vu que c'était 5 changements, mais à 3 occasions du match. Fait que ça, c'est un peu mieux. Parce que sinon, quelqu'un en fin de match, il va juste faire 4 changements à la 88e, 90e, 90e, 94e. Ça n'avait pas de sens. Ça, c'est ridicule.
Ouais. À chaque slide, il fait un changement pour écouler le temps aussi.
C'est ridicule. Genre. Mais ce que j'ai vu beaucoup, surtout en Bundesliga, c'est des changements à la mi-temps. Ouais. Les deux gars qui rentraient à la mi-temps, des choses comme ça. Ça, je trouve ça un peu quand même intéressant. Puis sinon, en fait, juste côté fitness, ça fait du sens. Là. Tu vois, les gars qui reviennent, t'as des exceptions comme Leon Goretzka qui est revenu, puis le gars il ressemble à Hulk. Genre. Mais t'as d'autres gars, j'ai vu des photos de De Bruyne à l'entraînement ce matin, tu vois, ça bedonne et tout, mais c'est normal. Je veux dire. Et puis les gars pouvaient pas sortir et tout. Et faut pas oublier que là, si on finit la saison, on va finir ça en fin août. c'est quoi, c'est un mois après, on commence la saison de l'année d'après. Faut éviter les blessures. C'est comme, faut faire attention avec ça. Avec si ça peut reposer les joueurs, faire jouer des jeunes, comme tu as dit aussi. Je trouve ça intéressant. Puis je pense que les coachs sont assez contents aussi parce que ça donne plus de. Tu peux plus risquer aussi. Tu peux plus faire des changements offensifs rapidement parce que si, mettons, tu marques le but que tu veux, tu peux te rattraper avec des changements défensifs. Tu as d'autres cartouches, si on veut. Fait que je trouve ça intéressant, honnêtement. Puis, je sais pas, Nilton, il dit que le feeling que ça va rester. Je sais pas. Je sais pas.
Moi, personnellement, si on pense strictement au foot business, plus de changements veut dire plus de joueurs qui peuvent jouer, avoir des minutes, plus de progression, plus de hype autour des joueurs. C'est plus clair. D'argent pour les clubs. Ça va être une question de est-ce qu'on veut faire plus d'argent ou on reste conservateur, parce que le foot, c'est quand même un secteur. Tu sais, on l'a vu avec le VAR, par exemple. Moyen au niveau de l'adaptation de toutes les ligues. Il y a même des ligues qui l'ont adopté et qui l'ont enlevé. Les fans ne sont pas toujours d'accord avec tout ça. Fait que je pense que on va voir. C'est toutes les équipes qui vont en bénéficier, ça va être parfait. Je vois surtout une ligue comme la MLS, ce serait tellement une règle importante pour eux pour faire jouer davantage les jeunes. Même que je mettrais carrément un astérisque, c'est-à-dire que vous pouvez faire 5 changements, mais sur les 5 changements, il faut moins qu'il y ait 2 gars qui sont des homegrown, par exemple.
Ouais. Puis tu sais, mais c'est vraiment intéressant parce que les jeunes vont pouvoir jouer avec ton équipe première à toi. Tu n'as pas besoin de les prêter partout. Puis aussi. En fait, moi, j'aimerais 5 changements et 12 joueurs sur le banc, tu sais, au lieu de 7. Comme ça, tu as des plus grands effectifs, mais tu as plus de gars sur le banc aussi, plus d'académiciens aussi. Tu sais, par exemple, en Europe, les qui jouent U23, tu peux les amener au match avec les premières, au cas où, si. Surtout pour les gros clubs, tu sais, mettons le Barça, le Real, le Bayern, la Juve, whatever. Donc, c'est 4-0 à la mi-temps, tu fais entrer les jeunes en deuxième mi-temps et tout. Mais après, je pense que ça va faire mal peut-être aux plus petits clubs qui n'auront pas ces joueurs-là en prêt. Ou des choses comme ça. Mais clairement, pour le foot business, comme tu as dit, c'est clair. Tu sais, mettons, tu amènes un gars à 100 millions, ça marche pas au début, si tu as 5 changements, il va quand même jouer souvent. Tu as 3 changements, tu es comme merde, est-ce que je rentre le gars qui est bon, mais qu'il vient du club, ou je rentre le gars qu'on a payé 100 millions, qu'on doit vendre des maillots. Tu sais, pour les coachs, ça pourrait aider à gérer ça aussi, mais.
Je pense que tu peux développer aussi des tactiques strictement basé sur le fait que tu vas faire entrer des joueurs en super sub, que c'est déjà prévu d'avance. Je prends un nom comme ça, Chicharito, qui était dans ton effectif. Tu ne veux pas nécessairement l'avoir sur ton 11 pour départ, mais tu sais qu'à la 75e minute, tu vas le faire entrer quand tu as besoin d'un but. Tu vas le risquer tout de suite. Ça va être quelque chose que tu vas bâtir ta stratégie, qu'une fois sur deux, tu vas vouloir l'utiliser ton joueur. Je pense que ça peut amener de la flexibilité. Écoute, c'est à voir. Je partage quand même le point de vue de Nilton. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait rester, mais je pense que c'est pas toutes les ligues ni toutes les fédérations qui vont décider d'adopter ça. À voir.
Ouais, après, ce serait intéressant aussi pour les changements tactiques des coachs. C'est passer de 4-3-3 à 3-4-3 à 3-5-2 à 4-2-3-1, ça va être facile, c'est 5 changements aussi. Ça pourrait être intéressant, ça aussi.
À voir. Reste 2-3 points en rafale avant de passer dans les clubs en hausse, club en baisse, joueur en hausse, joueur en baisse. Il y a eu plus ou moins de confirmation dans la nuit ou dans la dernière journée là, que Icardi, le transfert serait plus ou moins officialisé pour passer de l'Inter au PSG. Pour ceux qui connaissent un peu moins les joueurs, c'est un joueur qui a quand même dominé là, dans les dernières années avec l'Inter. Un joueur assez jeune, un Argentin, somme toute prometteur. Ouais. Est-ce que tu le vois? Bon, on sait que Cavani est probablement sur la sortie au PSG. Je pense pas qu'Mbappé va toujours évoluer nécessairement en neuf. Je pense pas nécessairement que c'est comme ça qu'on va l'utiliser pour toujours. Est-ce que tu vois que ce joueur-là, disons, s'imposer en Ligue 1 et surtout là, avec le PSG?
Ouais, ben tu sais, déjà cette année, il était assez fort, là, il marquait beaucoup. Je pense que c'est le neuf parfait pour Neymar et Mbappé. Tu sais, un gars tout pivot dans les pieds, qui finit les actions. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'un gars comme Cavani qui court partout. Eux, ils courent partout déjà. Eux, ils dribblent tout le monde. T'sais, on peut pas juste d'un gars qui. Mettons Zlatan était encore là, ça aurait été encore mieux.
Ouais, qui fait des tapings, qui va aller au duel dans la boîte. Un runner de surface. Là.
Exactement. En fond, lui, il fait comme c'est beau, les gars, faites vos zigzags. Moi, je suis au point de pénalty, puis je vais mettre la tête ou tout quand vous allez voir que vous ne pouvez plus dribbler la 8e personne. Puis ça marche bien. T'sais. Puis le gars, il clutch. Icardi à l'Inter dans chaque match contre Milan, c'était but. Et beaucoup, beaucoup de joueurs disaient en fait que dans la surface, c'était un des meilleurs au monde. c'est n'importe quel ballon qui est dans la surface, que ce soit la tête, pied gauche, pied droit, volé, n'importe quoi, il la met dedans. Puis 50, je pense que c'est 50 millions plus 7 de variables. Cadeau, là. C'est cadeau. Ouais. Icardi, il y a 2 ans, sa clause était à 120 millions.
Surtout l'Inter, bon, ça s'est mal un peu terminé. Il y a une histoire avec sa conjointe, agent, blablabla, et tout ça. Puis l'Inter a quand même Lautaro Martinez là, qui peut. Qui est en train de prendre vraiment sa place. Et ben on a Lukaku aussi là, en neuf à l'Inter. Donc, je pense que c'est un choix facile. On va cacher. Peut-être pas au meilleur moment, peut-être pour Icardi, s'il avait été vendu une saison avant. Ouais. Mais écoute, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui peut se permettre de refuser un tel montant pour un joueur comme ça.
C'est clair. Après, Icardi avec son agente, qui fait des shows télé, c'est une célébrité, c'est un bordel. C'est bordel à gérer. Tu sais, ce gars-là, c'était le capitaine à l'Inter. Il était comme ça avec les partisans, les tifosi. Puis là, elle a foutu le bordel partout. Elle a dit qu'il voulait aller à Juventus, qu'il y a nanana. Mm-hmm. Fait qu'honnêtement, eux sont mieux avec des gars peut-être plus professionnels. Surtout quand t'as Antonio Conte comme coach, là. Il n'y a pas de fla-fla avec lui, hein. Fait qu'honnêtement, ça... Après, c'est un bon point que David amène, que Cavani peut-être défend plus. Je pense qu'il défendait plus que maintenant. Ouais. Je pense que là, il court un peu moins aussi. Mais ouais, après,
est-ce que le PSG a vraiment besoin de défendre?
Ben, c'est ça, c'est exactement ça. En Ligue 1, non, clairement.
Après, sera capable de mettre 4 buts facilement. Donc, 4 buts, si tu perds 4-3, tu gagnes.
Après, je pense que ce qu'il faut, c'est un entraîneur qui veut les convaincre de défendre. Parce que ces gars-là, ils n'ont pas 32 ans. Là. Les seuls qui ne défendent pas, c'est Cristiano et Messi parce qu'ils ont 32, 33, 34. Puis, si, dis à Messi de défendre, mettons, Messi défend. Mais il ne va plus faire tout ce qu'il fait facilement parce que tu vas le brûler, parce qu'il va faire la pression. Neymar peut le faire. Mbappé peut le faire. Puis ils l'ont fait en Ligue des Champions contre Dortmund. Puis s'ils le font, ils deviennent une équipe top 3 au monde. Mais s'ils jouent comme ils jouent en Ligue 1 la fin de semaine, genre ils vont au parc avec leurs amis, là, ils deviennent vulnérables.
Clairement. Écoute, ça va être à voir. Faut voir ce qui va se passer. Deux petites nouvelles en rafale. Salzbourg en Autriche, l'ancienne équipe là, de Jesse March avant qu'il fasse le saut en Allemagne. Ils ont gagné le championnat devant un stade vide. C'est triste.
Ah, c'est vrai, il est plus là-bas. C'est sûr qu'il est encore là-bas.
Je pensais que c'était le champion. Là, il est en Allemagne. Là.
Ouais, c'est vrai. Mais ouais, la célébration était bizarre, là, avec les ronds par terre. Là. On dirait une célébration de la FIFA, genre, quand tu gagnes un trophée. Là. C'est un peu bizarre.
Pauvres gars qui vont, peut-être c'est leur seul trophée de leur vie, peut-être que c'est la seule fois qu'ils vont. Non, mais c'est vrai, c'est assez triste. On les souligne au podcast parce que bon, ils ont quand même fait un exploit, ils ont remporté le championnat. Donc,
La coupe.
La coupe. Félicitations à eux, bravo. Et bon. C'est la vie. Et deux petites nouvelles. Bon, on sait que pour l'instant, plusieurs ligues vont probablement reprendre. Pour l'instant, la seule ligue qui ne semble pas avoir de date nécessairement ou de projet concret, ce serait dans le fond la Fédération française. On a mentionné probablement peut-être faire des matchs amicaux un peu plus tard dans l'année.
Eux, ils ont dit carrément qu'il n'y a pas de saison. Eux, ils ont dit qu'ils annulent la saison, on ne va pas reprendre, la décision ne va pas être renversée. Et depuis, tout le monde a repris. Tout le monde va dire on va reprendre et tout. Je ne sais pas si tu as vu la une de l'équipe là, qui dit tout le monde reprend et nous, on est comme des cons. C'est fou, honnêtement. Après, je pense que c'est dur leur en vouloir. Tu sais, t'as une pandémie. T'as une crise sanitaire. Genre. Tu sais, si dans deux semaines, t'as énormément des ligues qui sont annulées, ils ont raison aussi. Tu sais, après, Hilton aussi a raison. En Belgique, Pays-Bas aussi, ils ont annulé. Mais en fait, la seule chose, moi, qui me dérange, c'est pour les relégations, pour les montées. C'est Belgique, tu as des
Belgique, players. Pays-Bas, c'est pas nécessairement dans le top 5 majeur. Là, on parle de top 5 majeur. Puis, c'est, mettons, la Ligue 1, c'est une ligue qui n'est pas suivie seulement que localement. Là. Pays-Bas, il y a peut-être des fans ailleurs, mais c'est quelque chose d'un peu plus local. Belgique, c'est les Belges qui sont expats ou peut-être certains gros fans de Ligue belge pour peu importe la raison. Mais la Ligue 1, c'est quand même un championnat qui est suivi plus à l'extérieur que quand même un petit peu plus gros. Puis, honnêtement, pour le peuple français qui a quand même mangé une claque avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'était une bonne façon aussi de donner un peu d'espoir. Hein. Le sport, c'est un peu ça, c'est un vecteur d'espoir, c'est un vecteur de rassemblement. Si les gens même s'ils ne se rassemblent pas nécessairement ensemble dans un bar pour regarder le match, mais écoute, si on est tous ensemble, ben c'est quand même plaisant de regarder un match, même si on est à la maison, chacun de notre côté, on parle du match, ça fait un sujet différent de parler de bon qui t'a perdu dans ta famille et qui va pas bien. Donc écoute, c'est à savoir ce qui va se passer de ce côté-là, quand même dommage, puis tu as raison. Pour tout ce qui est relégation et tout. Bon, promotion, on sait que ça va être différent cette année. Je pense que tous les championnats ont quand même leur façon de faire. Donc ça va être à voir.
Ce qui est aussi difficile pour les clubs de Ligue 1, c'est si la Ligue des champions reprend. Tu sais, je veux dire, tout le monde va jouer des matchs en championnat, puis Lyon, PSG, les deux équipes qui restent, eux, ils n'ont pas de préparation. Tu sais. Ils vont faire des matchs amicaux. Genre. Tu sais, c'est tough un peu pour eux. Mais bon, après, c'est dur à dire en ce moment qui a raison ou non. Tant que c'est pas fini. Parce qu'encore une fois, si en Premier League, ça repart, puis deux semaines après, on annule parce qu'il y a 60 cas qui explosent partout, c'est un échec désastreux.
Non, clairement, mais à la limite, j'aurais fait le match à huis clos, puis juste pour donner un peu d'espoir aux
joueurs. Ouais, après, moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est le fait de dire c'est non, point à la ligne. Tandis que tout le monde a fait, bon, on va regarder ce qui se passe. T'sais. C'est pour te donner peut-être une porte de sortie, pour trouver une solution, mais bon. Alors, l'avenir va nous donner la réponse.
Exact. Passons maintenant au prochain segment, les clubs et les joueurs en hausse et les clubs et les joueurs en baisse. Alex, tu veux commencer? Écoute, il faut parler d'Alfonso Davies qui, en ce moment, je pense surtout que les yeux sont rivés pour les amateurs de foot, là, principalement sur la Bundesliga en ce moment.
Ouais, surtout.
On le savait qu'il était bon. En MLS, c'était pas un joueur que je suivais nécessairement. On le voyait on and off. Vancouver, c'est pas une équipe qu'on jouait régulièrement contre eux. C'est vraiment une fois par année. Mais là, on le voit depuis qu'il est au Bayern, quand même en train de s'imposer, a profité d'une blessure, joue assez régulièrement pour le moment. Et même, j'ai vu plusieurs tweets passer qui est probablement sur la même lignée qu'un Gareth Bale, par exemple. Est-ce que tu vois le parallèle juste?
Ouais, je pense un peu l'inverse de Gareth Bale, que lui a commencé défenseur gauche puis qui a fini ailier ou 10,5 ou whatever, tandis que Davis, lui, était ailier puis a fini défenseur gauche. Peut-être un genre de Cuentrao pour moi, c'est formé offensivement, mais qui est descendu après. Après, on verra son futur, là, ce que ça va donner. Mais t'as raison, MLS, il était fort parce qu'on se disait, il a 17 ans. Genre. C'est ce qu'il fait à 17 ans, c'est exceptionnel. Genre. Mais de là à se dire, le gars va être titulaire au Bayern dans un an, deux ans, jamais de la vie, genre. Tu sais, Almiron, il rush à Newcastle, genre, puis il brûlait la MLS. Là. Fait que tu sais, on se disait, bon, Davis, Bayern, c'est bizarre, ils vont sûrement le prêter, sûrement jouer en quelques minutes. Là, ils le mettent défenseur gauche. Moi, j'étais le premier à dire, c'est scandaleux, le gars est pas bon, finalement, bon, il est exceptionnel. Puis, ouais, quand sa progression, elle est folle, même physiquement, tu vois, le gars, il est super mature, il est pro. Puis, tu sais, oui, il a profité des blessures au début, sauf que là, sur le banc, t'as Lucas Hernandez, qui jouait défenseur gauche, que le Bayern a payé 80 millions. Puis qui est toujours assis sur le banc. Puis qui est Davis, je pense que sa moyenne de minutes dans les 15 derniers matchs, c'est 85 minutes par match. Le gars est titulaire au Bayern Munich. C'est quand même fou. Après, c'est sûr, il faut lui laisser le temps. J'ai vu des tweets de genre, c'est le meilleur latéral au monde. Nommez-moi un gars meilleur que lui. On va se calmer un peu. Hein? Là, il y a une grosse séquence. Mais laissons-le faire ses trucs en paix. Il est quand même au Bayern. C'est quand même exceptionnel. Mais honnêtement, il comprend énormément. Hein. Honnêtement, je ne me serais jamais attendu à ça.
Honnêtement, il faut quand même être honnête. C'est un joueur qui, physiquement, est encore en train de prendre du galon. T'sais, c'est encore un jeune joueur. On le voit qu'en ce moment, c'est con, mais je pense qu'il compense peut-être pour son IQ foot avec toutes ses aptitudes physiques.
Oui, clairement.
Je pense que jouer au Bayern dans une très, très grande structure, dans une très belle équipe, jouer des minutes imposantes comme il est en train de faire en ce moment, ça va le faire progresser assez rapidement. Mais c'est quoi le prochain step pour lui? Tu sais? Est-ce qu'il peut vraiment aspirer à jouer dans un meilleur club? Est-ce que c'est possible?
Ouais, est-ce qu'il y a vraiment un meilleur club que le Bayern? Alors, tu sais, je veux dire, Bayern, c'est dans le top 5 au monde. Là. C'est ça le truc.
C'est quand même exceptionnel qu'un jeune Canadien comme ça, là.
C'est fou. Après, s'inscrire sur la durée. Tu sais, gagner des titres en étant titulaire au Bayern. Tu sais, mettons il est titulaire 5 ans au Bayern. C'est incroyable. Tu sais, aucun Canadien a fait ça. Tu sais, même ce qu'il fait maintenant, genre, je veux dire, c'est complètement fou. Là.
Ben, tu sais, même au niveau des Américains, il y a quelques Américains qui ont performé en EPL ou en Bundesliga, par exemple. Tu sais, je pense à Donovan qui a brûlé la MLS, mais qui s'est pas nécessairement imposé super, super fort quand il est allé jouer en Bundes et tout.
Ouais.
Tu sais, bon, je peux pas le comparer à des carrières comme des Dempsey ou des Bradley ou des trucs comme ça, mais j'espère qu'un joueur nord-américain va performer comme un Jonathan David, peut-être qu'il va vraiment s'élever. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir si les équipes vont par la suite considérer davantage des joueurs nord-américains pour progresser. Puis c'est sûr aussi, hein, c'est un joueur étranger hein, pour la majorité des ligues. Donc, s'ils prennent le risque, j'espère qu'ils vont d'autres clubs vont le faire plus tard.
Après, j'aime M. Foudefoot, ce qu'il dit, son prochain step, c'est d'enfant être titulaire ailier, tu sais, carrément. Après, ce qui est le fun dans une équipe comme le Bayern, c'est que les latéraux, ils sont immensément importants. Quand tu parles de Liverpool, tu parles de Salah de Mané, mais tu parles aussi de Robertson et Trent Alexander-Arnold, qui sont phénoménales les deux. Fait que tu sais,
si tu
parles latéral au Bayern, t'es un ailier, t'es une sorte de deuxième ailier. Et oui, comme tu as dit, c'est vrai que Thomas Müller l'a dit en entrevue après le match, il dit « Davis nous impressionne ». Il dit « Bon, il est jeune, des fois, il est mal placé, mais physiquement, c'est il clair. Peut rattraper les erreurs. Tu » sais.
Exactement.
C'est cool aussi, puis il apprend beaucoup comme ça. Puis bon, puis ouais, pour répondre à Dominique, ouais, ben, je ne pense pas qu'il y a un party, je pense qu'il a fait quelques… c'est genre, ils sont beaucoup de colocs, en fait, ils font souvent des bruits, mais non, c'est... il y a même adresse.
Salutations, Dominique.
Ouais, mais sinon, ce serait intéressant de voir Davis un peu devant, mais pour l'instant, ici, il est fort, là, défenseur gauche, c'est correct, là.
Ouais, puis si il est capable d'être allié par la suite, pourquoi pas, mais je pense qu'il est moins exposé en ce moment de la façon qu'il est employé. Ouais. Je pense qu'il va progresser davantage, surtout qu'il y a des libertés offensives, comme tu le mentionnes.
Ouais. Tu sais, allié, il peut l'être avec la sélection canadienne. En fait, j'espère qu'il va l'être, parce que, je sais pas, on n'a pas beaucoup d'alliés meilleurs que lui. Ça serait un peu le gaspillage, je pense, de le mettre défenseur gauche au Canada où tu souffres. Plus que t'attaques, comme le Bayern. Hein?
Mais elle est gauche, c'est le gars de QPR. Là.
C'est Orlette, non?
Ouais, Junior Orlette qui est justement employé là. À voir, écoute, j'ai bien hâte de voir. C'est clair qu'avec un gars comme ça, avec un David, l'équipe canadienne est en progression. Tant mieux. Justement, on parle de progression, on parle de régression. Qui vois-tu dans cette catégorie-là, soit un joueur ou un club en ce moment?
Moi, j'avais. J'ai pris un petit screenshot, je ne sais pas comment dire son nom, Kai Havertz, que j'achète sur FM dans cette édition parce qu'il est exceptionnel. Je l'ai pris avec mon Manchester United, bref. Puis, il y a un gars à 20 ans. C'est pas un 9, c'est pas un 10, c'est comme un 9,5, si on veut. Puis, il y a 12 buts et 7 passes décisives dans les 16 derniers matchs en Bundesliga. Il y a 35 buts cette année en Bundesliga, ou 35 buts en Bundesliga. C'est le plus jeune joueur à marquer 35 buts en Bundesliga, dans le fond. C'est à 20 ans, il joue à Leverkusen, puis il est super fort, là, super fort. Je ne sais pas si c'est le gars genre, qui va finir au Real dans pas long, ou Bayern, peut-être, dans le fond. Puis je le trouve super fort. Honnêtement, je ne le connaissais que par FM avant, pour être honnête avec toi. Puis après, j'ai commencé à voir sa highlight. Cette saison, il a explosé vraiment. Puis Leverkusen, ils n'ont pas un énorme club. Ils ont toujours une bonne équipe, sans être
dans le Bayern. C'est une équipe avec une structure budgétaire quand même assez serrée aussi. Là.
Ouais, ça, ils ont toujours des bons jeunes aussi. Ça joue au foot. Puis là, il fait une année exceptionnelle. Puis je pense que lui, il est en train vraiment de se placer comme un des meilleurs jeunes au monde, un des meilleurs espoirs. Puis comme je disais tantôt, le Bayern, pour moi, 40 points sur les 42 derniers, gagné à Dortmund, le titre, encore une fois, est à eux, je pense.
Ouais, probablement. Moi, j'ai pas nécessairement quelque chose au niveau des équipes ou des joueurs qui sont en descente. C'est sûr qu'il y a peu de foot en ce moment. On va y revenir dans les prochaines semaines pour vous en parler. Peut-être ce qui se passe un peu avec la MLS, la fuite d'informations, blablabla. Je suis pas super content si on fait une reprise de la Ligue en terrain neutre. Bon, peut-être à Orlando et tout ça, qu'on puisse pas voir les joueurs et tout. Mais écoute, c'est mieux ça que rien. Donc, on verra.
Non, c'est clair. C'est pas top. Mais après, c'est ce qu'on a d'autre choix. Tu sais, c'est quoi les choix qu'on a maintenant? Si c'est ça ou rien, tant qu'à ça, s'ils peuvent un peu rentabiliser quelque chose, même si Je me demande, en fait, question finance, à quel point ça va faire mal aux équipes, tu sais, même à l'Impact de Montréal, même à Saputo, parce que même Bologne vont reprendre, oui, mais ils vont reprendre à huis clos. Tu sais, à quel point ça va nous faire mal dans le futur. Tu sais, Wanyama, il coûte cher maintenant. Tyler, il coûte cher maintenant. Puis tu n'as aucun revenu qui rentre. Déjà que l'Impact ne faisait pas énormément d'argent.
Non, c'est un club là, qui était déficitaire en termes opérationnels. Peut-être la Ligue va être en mesure de supporter les clubs. On ne sait pas. On sait que bon, financièrement, ouais, avec toutes les expansions des dernières années, la Ligue, normalement, devrait avoir un peu d'argent. Peut-être que, justement, on va vouloir accentuer le rythme d'expansion pour avoir plus d'argent et pouvoir supporter. C'est un peu ça qui me fait peur. Je pense que la Ligue progresse rapidement. C'est une belle chose, mais je ne me vois pas une Ligue à 40 clubs non plus. Là. Surtout que, bon, à 40 clubs, un jour, on n'aura pas le choix d'avoir un système de relégation. Puis des propriétaires qui vont payer 500 millions, peut-être même 1 milliard dans quelques années, une franchise, ils ne vont pas vouloir, du jour au lendemain descendre. Alors que si on regarde des équipes, mettons en Angleterre, ben, les équipes qui montent puis qui descendent, c'est des équipes qui existent depuis 100 ans. Donc, les propriétaires, ben, quand ils embarquent dans le projet, ils savent un peu à quoi s'attendre. Donc, voilà.
On va avoir un truc genre hockey, basket, là, deux grosses conférences. On ne va jamais jouer contre les gars de l'Ouest. On va jamais voir Messi, Cristiano quand ils vont être à Los Angeles. Mais ouais, un truc comme ça.
Mais peut-être justement, tu sais, tu mentionnes peut-être que ça va affecter le foot mondial. Tu sais, peut-être qu'il y a beaucoup de ligues qui étaient plus ou moins chambranlantes puis qui vont devoir se mettre de côté, des gros clubs qui vont devoir prendre quelques années de recul. Tu sais, on en parlait ensemble quand on s'est parlé cette semaine. La Ligue portugaise, c'est peut-être une équipe qui va vraiment souffrir de cet endroit-là parce que c'est une ligue qui vit principalement en raison des ventes de leurs joueurs. C'est pas une économie qui est super exceptionnelle. Donc, est-ce que les trois gros clubs, on parle de Porto, Benfica, puis le Sporting, est-ce que ces clubs-là vont être en mesure de rester compétitifs et être capables de performer sur la scène de la Champions League et de l'Europa League?
Ouais. C'est vrai que ça va faire mal. Puis j'avais écouté l'autre jour l'Afterfoot, puis Nicolas Villas, il disait que dans le fond, au Portugal, comme ce qui fait vraiment mal au club, c'est que le partage des revenus, c'est 90% Benfica, Porto, Sporting. Fait que c'est plus toute la ligue qui va en souffrir. Mais tu sais, si l'écart est trop grand, à quel point ça vaut la peine d'aller au Benfica, au Porto, Sporting? Est-ce qu'à la place, la Bundesliga, par exemple, qui devient de plus en plus intéressante, de plus en plus équilibrée, de plus en plus riche? Après, ou même MLS. T'sais, MLS, ça va devenir une option, je pense aussi. D'ailleurs, j'aime ce que M. Foot de Foot amène. J'ai pas lu l'interview de DeSantis, mais j'ai lu sa quote où il dit que c'est une occasion pour acheter des joueurs peut-être en rabais pour la MLS et pour l'Impact. Je sais pas si j'ai pas considéré ça comme une pression à Saputo. Peut-être juste lui qui a une idée ou ce que lui aurait fait. C'est un passionné du foot, tu vois, qu'il adore ça. Il est encore dans son rôle de directeur sportif. Mais c'est un bon sujet. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas à quel point l'Impact peut faire ça. T'sais, mettons un joueur qui normalement coûterait 6. Là, tu peux l'acheter 2. Est-ce que l'Impact peut donner 2 millions pour un joueur?
C'est parce que de ce que moi je comprends avec l'Impact, c'est que on parle toujours du fameux plan de 5 ans. Là. Bon, ce fameux plan de 5 ans qui se renouvelle à chaque 2 ans. Mais je vois pas l'Impact être une équipe depuis longtemps d'être une équipe avec des projets à long terme. Par contre, depuis l'arrivée d'Olivier Renard, c'est ce que je remarque que c'est les intentions de l'équipe, c'est d'acheter des joueurs somme toute prometteurs. Puis surtout là, avec les dernières rumeurs qui sont associées au club, acheter des joueurs prometteurs pour faire un peu d'argent, puis en même temps voir ce qui va se passer. Je ne sais pas. Puis n'oubliez pas, si quand les clubs achètent des joueurs, dépendamment des conditions, il y a de l'argent qui va à la MLS aussi quand le joueur est transféré, tout ça. Il y a ça à prendre en considération quand même.
Ouais.
Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Non, je sais pas. Moi, j'ai lu ça, puis j'étais comme, c'est une bonne idée, sur papier, dit comme ça. Mais de l'autre côté, nous non plus, on fait pas d'argent. C'est à quel point...
Je vois des clubs qui ont plus de sous faire ça, là, des Atlanta United, par exemple. Mais aller voir des équipes qui sont peut-être sur le bord de la faillite, qui auront besoin d'un transfert important.
Qui ont du cash flow maintenant, tu sais.
Mais en même temps, peut-être aussi que ça va faire en sorte que les équipes qui ont encore plus besoin de sous vont peut-être surévaluer leurs joueurs parce que ils ont des problèmes financiers. C'est toujours un marché d'offres et de demandes, puis voir qui est le plus désespéré.
C'est clair.
Ce sera à voir. Ce sera à voir.
C'est clair, parce que...
Écoute, Eric...
Ouais, vas-y. On fait
le débat, c'est ça?
Ben,
quand tu veux.
Ben, en fait, j'allais dire, même les gros clubs, c'est la même chose. Tu sais, le Barça, il allait donner le 110 millions à Lautaro, puis maintenant, ils n'ont plus d'argent.
Ouais.
Fait que, tu sais,
j'imagine ça impacte tout le monde.
Ben, c'est ça, ça impacte tout le monde. Mais bref, oui, vas-y, je suis prêt pour ton débat. Là.
T'es prêt pour le débat?
Ouais.
Bon, tous ceux qui nous écoutent, le débat aujourd'hui, c'est assez simple. C'est qui est le meilleur défenseur de la décennie 2000-2010? Vous pouvez mettre vos noms en commentaire. On va les lire puis on va partager nos opinions. Alec, bon, avant de nommer mon choix et qu'on nomme ton choix, je veux dire les gars auxquels j'ai pensé, qui ont été dominants pendant cette décennie-là, mais qui n'ont pas... disons, qui n'ont pas été choisis parmi nos finalistes. Roberto Carlos, quand même, surtout début 2000, ouais. dans une équipe dominante, je pense qu'il a quand même marqué ce début des années 2000.
Ouais, clairement. Puis ça, j'avais pas pensé au latéraux, merde. Je pensais que c'était juste en trois. Mais j'avoue, Roberto Carlos, mais après, c'est dur les défenseurs, parce que... Mais bref, vas-y, continue. Moi aussi, j'avais pensé que Carlos fait du sens. Tu me donnes Carlos, moi je pense à Cafu aussi.
Cafu, ouais, effectivement. Vraiment dominant pendant son époque. Il faut penser à Puyol. Je pense que Puyol, ouais. De 2000 à 2010, c'est quand même un joueur qui a su dominer. Surtout, je pense, en fin de carrière, là, il était quand même rendu quand même assez excellent. J'ai pensé, bon, Maldini. Pour moi, c'est un no-brainer. T'en as parlé.
Ouais.
Probablement un des meilleurs défenseurs. Vous pouvez dire votre opinion, mais je pense que c'est quand même un des meilleurs défenseurs, disons, de son époque. Peut-être même dans le top 10, voire top 20 des meilleurs défenseurs de l'histoire.
Ouais.
Je pense qu'il a changé un peu la game à son niveau. Puis sur la longévité, écoute, le gars a joué tellement longtemps.
Ouais.
Curieusement, un Ramos aussi, quand même.
Ouais, mais je dirais que Ramos atteint son pic après 2009, tu sais, à partir de 2010, 2011, 2012, 2013. Fait que, c'est comme, je pensais à Ramos, je pensais à Piqué.
Pour la deuxième portion. Ouais, pour la deuxième portion, je pense. Ouais. Des
parce qu'avant 2010, il jouait latéral droit. C'était Ramos version latéral droit. Qui était fort, donc, d'ailleurs. Là. Mais Ronaldinho avait humilié.
Ouais, ouais.
Magnifique.
Sinon, j'avais pensé à Carvalho.
Oui.
Qui était quand même dominant, surtout à mon avis, dans ces années avec Chelsea. Là, c'était quand même un,
je pense
un
que
joueur
la,
qui était.
La paire John Terry-Carvalho, la saison où Mourinho gagne sa première Premier League, je pense qu'il prend 14 buts dans toute la saison, genre. Exceptionnel.
Ouais, vraiment exceptionnel. Puis justement, Terry, dans la fin des années 2000, quand même un joueur exceptionnel. Puis le dernier que j'avais noté, c'était Vidic à Manchester United.
Ouais.
J'ai trouvé que c'était un joueur intéressant, surtout à l'époque, dans les premiers FIFA auxquels j'ai joué, c'est souvent un joueur que j'allais chercher.
C'est un malade.
Je trouvais que c'est un défenseur assez complet. Puis,
lui, Ferdinand.
Ouais, Rio Ferdinand aussi aurait pu être un choix. Je suis pas fan de Ferdinand, mais ça aurait pu être un choix intéressant.
Ouais.
Bon, je pense que Nilton nous vole un peu le punch.
Ouais, il nous a scoopé les deux.
Ils ont scoop les deux. Je sais pas si tu veux commencer, toi, par ton choix.
Moi, j'avais... Ben, c'est sûr que j'hésitais entre, justement, Nesta, Maldini, Cannavaro. Bon, je sais pas. J'allais avec Cannavaro. J'ai toujours aimé ce gars-là. Je sais pas pourquoi. Il me reste le souvenir au Real où il était pas vraiment le plus fort. Mais à la Juve... Ben, en fait, j'ai surtout sa Coupe du Monde italienne en 2006 où il commence avec Nesta et on oublie, mais Nesta se blesse et c'est Marco Materazzi. Pas le meilleur défenseur du tout à ce moment-là, il l'a jamais vraiment été non plus, qui prend sa place. En Italie, on dit merde, sans Nesta, c'est fini, nanana, nanana, et Cannavaro tient la baraque, gagne la Coupe du Monde, gagne le Ballon d'Or. Pour moi, Cannavaro.
Exceptionnel.
C'était peut-être pas, en fait, c'est interprété.
Est-ce que c'est un scandale, ça? Ben, que Cannavaro gagne un Ballon d'Or?
Peut-être, je dirais pas scandale, parce que bon, Ronaldo en 2002, il l'a eu pour une Coupe du Monde seulement aussi. T'sais, il n'a pas joué de l'année, il est revenu, il a joué à la Coupe du Monde, il a gagné la Coupe du Monde, Ballon d'Or. Fait que, si tu prends cet exemple-là, pas un scandale, mais Thierry Henry, Ronaldinho, cette année-là, peut-être qu'il le méritait énormément aussi. T'sais, Thierry Henry qui amène Arsenal en Ligue des Champions tout seul, ben, pas tout seul, mais il fait la différence à tous les matchs. Ronaldinho, qui gagne la Ligue des Champions, est une année folle. Mais Cannavaro, il gagne la Coupe du Monde. À lui, comme presque, il tient la défense italienne. Tu avais Fabio Grosso, qui n'était pas un élite non plus à sa gauche. Zambrotta était quand même solide à droite. Mais Cannavaro, c'était le lieutenant. Il gagnait tout de la tête et il n'était pas 6 pieds 2, là. Mais il gagnait tout de la tête.
C'est une équipe quand même exceptionnelle, cette équipe de la Coupe du Monde 2006. En termes, je dirais, défensifs, c'est une équipe qui avait une structure incroyable. Puis justement, tu as parlé des gars. Il n'y avait pas nécessairement les meilleurs joueurs à ce moment-là, mais les joueurs qui étaient dominants rendaient tout le monde autour d'eux meilleurs. Puis c'est ce qu'on attend d'un leader et d'un joueur d'exception. Tu as raison, je pense que Cannavaro, grosse saison 2006 spécialement. Puis tu as parlé des années au Real, pour moi, c'est comme les années en ce moment, par exemple, du PSG. Tu allais jouer là-bas, tu allais jouer dans une équipe hyper dominante. On allait plus peut-être te chercher parce que tu étais un gros gars puis qu'il voulait. Perez voulait faire les Galacticos et tout. Je sais pas. Je pense pas qu'on peut prendre nécessairement ça en considération dans tout ça, mais tu as raison.
Ouais, parce que pour moi, Cannavaro, c'était. Tu sais, mettons, c'était une valeur sûre. Pour moi, c'était un peu le Sergio Ramos avant Sergio Ramos aussi, parce qu'il mettait des coups de. Je veux rien dire, mais c'était un salaud, là. Mais.
C'est un joueur cochon.
C'était un leader. Avec... Moi, tu me dis, je veux gagner, je prends Cannavaro, tu sais. Comme maintenant, tu me dis, tu veux gagner avec un défenseur, je vais. Sergio Ramos.
C'est clair. Moi, c'est Matteo. Non, c'est pas Matteo Ferreira. Pour moi, c'est Nesta. Pour moi, Nesta, c'est le prototype parfait d'un défenseur de sa génération. Forme physique quand même toujours assez stable, capable de jouer balle au pied. C'est un des gars qui faisait les plus beaux tacles, toujours en mesure de bien gérer sa ligne aussi. C'est un leader vocal, c'est un joueur super intéressant. Puis tu regardes surtout le début des années 2000, quand il a transitionné de Lazio à Milan.
Ouais.
4 années consécutives défenseur de l'année en Serie A. Il a quand même gagné 2 Ligues des Champions avec Milan. Et une fois, il aurait dû gagner, mais ils ont perdu contre ton Barça qui a remporté. Écoute, c'est un joueur, à mon avis, de la décennie 2000 à 2010, probablement le meilleur défenseur pour la durée de cette décennie-là. Évidemment, il a été nommé par la FIFA pour faire partie des 100 meilleurs joueurs de l'histoire. Je pense que c'est un no-brainer.
Ouais.
Écoute, il a tellement dominé, à mon avis, son époque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chaque auditeur. Cannavaro, Nesta, est-ce que vous avez d'autres noms?
Ouais, je pense que Maldini va revenir souvent aussi.
Ouais.
Du Puyol, Ferdinand, Vidic. John Terry, je pense qu'il est quand même. Mathieu. John Terry aussi, c'est juste qu'en Premier League, parce qu'il n'était pas aussi complet, je pense, Terry, que Cannavaro, Maldini, Nesta. Moi, j'aime beaucoup Carvalho, en fait, nommé. Je pense qu'il est très underappreciated.
Ouais, vraiment.
C'était un des meilleurs tacleurs de l'histoire. Précisément.
Ouais.
Dom et Dinestal, de way, je pense que c'est pour le championnat canadien qui a gagné avec nous.
Je pense que 2013. Patrice Bernier a posté l'image là. Je pense que ça faisait 7 ans jour pour jour qu'il avait gagné. Mais il est quand même venu jouer à l'Impact.
C'est quand même fou.
C'est quand même cool. C'est quand tu penses qu'on a eu Drogba, Nesta à l'Impact. Bon, Divaio aussi, c'est quand même un gros gars. Mais quand même impressionnant d'avoir eu Thierry Henry comme coach. Mais je pense que vraiment, il fallait les deux piger dans la génération italienne de ces époques-là. Je pense que c'était le modèle, la façon de jouer au foot, c'était vraiment défensif, puis justement d'essayer de profiter des erreurs de l'adversaire. Mais si on regarde actuellement, si on continue un peu le débat puis qu'on extrapole, aujourd'hui, l'Italie n'est plus nécessairement réputée comme le championnat défensif par excellence.
Ouais. Ouais, ça.
On a changé un peu le style, beaucoup plus de joueurs étrangers en termes de joueurs réguliers, normal. Vous me direz, dans les années 90, début 2000, c'est surtout les joueurs d'exception, les étrangers qui venaient jouer en Italie. Justement, tu parlais de, mettons, un gars qui est comme Henri, des Zlatan un peu plus tard dans le temps et tout ça. Mais là, on voit quand même un style de jeu différent, beaucoup de joueurs sud-américains qui commencent à arriver, des joueurs africains aussi, donc ça a quand même changé la ligue. Mais pourquoi tu penses que l'Italie n'est plus nécessairement l'équipe ou disons la nation qui développe le plus de défenseurs avec des grandes qualités, là.
J'avais lu un article il y a quelques années, il y a comme 8 ans, je pense, sur SoFoot, qui disait que la fédération italienne avait changé, dans le fond, toute leur méthode de formation. Au lieu de former des gros défenseurs, ils formaient des gars devant, des gars de talent pour jouer plus offensif, ouais. Des Verratti, par exemple, qui peut-être des...
Plus payant à la revente aussi, je pense.
Plus payant, exactement, mais aussi pour les droits télé à l'étranger. Le monde voulait moins regarder la Serie A, moins regarder. Parce qu'il y avait justement le. Tu sais, à l'époque où tout le monde disait, oh, les Italiens, ils plongent, puis ils font le catenaccio. Ils voulaient enlever ça. Puis là, on a commencé. La Serie A, c'était une des premières ligues au monde à avoir des amendes puis des matchs de suspension si tu plongeais. Le monde, il y avait une équipe, après les matchs, ils regardent les actions litigieuses et si tu plonges, tu as une amende ou tu es suspendu. Fait que ça, c'est vraiment pour enlever toute cette réputation-là. Par contre, tu as des Chiellini, tu as des Bonucci. T'as des Romagnoli qui, bon, c'est pas Maldini, mais quand même, c'est comme, t'as quand même des gars super solides. Mais effectivement, ouais. Plus tourné vers l'avant. Je pense que la Serie A aussi. Moi, j'ai toujours défendu la Serie A là-dessus parce que je trouve que c'est un mythe. Je pense que les 4 dernières années, c'est dans le top 3 des championnats qui a le plus de buts marqués par match. Ouais. Fait que, tu sais, ça n'existe plus vraiment cette. Une grosse fourmi. Ça n'existe plus vraiment ce mythe-là que la Serie A, pardon, elle fait que défendre. Peut-être aussi à un moment donné, oui, ils ont gagné en 2006, mais ils ne gagnaient plus aussi souvent qu'avant. Les équipes gagnaient moins souvent en Ligue des Champions aussi. Et comme tu as dit, évidemment, ton défenseur, tu vas le vendre 20, 40 millions, mais le gars qui te met 30 buts, tu vas le vendre 120 millions.
Parce que c'est assez récent, des défenseurs comme des Harry Maguire qui sortent à des prix qui n'ont pas de sens. Là. C'est différent un peu. Je pense que justement, je pense que le but, c'est de vendre des gars pour faire un peu d'argent. La situation d'Italie, financièrement, ça ne va pas du tout. Les stades, la majorité des équipes, le stade n'appartient pas à l'équipe. C'est les stades appartiennent aux villes. Fait que c'est des pertes de revenus. On doit payer pour tout ça. Je peux vous en parler. Il y a des investisseurs louches qui viennent en Italie aussi, qui n'ont pas nécessairement les reins assez solides pour soutenir. Ouais. Donc, je pense qu'ils n'ont pas le choix de se tourner vers le développement des joueurs un peu plus intéressants. Flashy qui peuvent, disons, gagner de la valeur en marquant 2-3 buts qui font l'aide du Tour du Monde, alors qu'un joueur défensif. Tu as parlé de Romagnoli. Pour moi, personnellement, dans mon avis à moi, c'est un top 10 mondial, mais on pourrait demander aux auditeurs combien de personnes le connaissent. Je ne suis pas certain que tout le monde le connaît. Même Bonucci, quand même bon, t'es assez vieux maintenant. Chiellini, c'est un gars qui, je ne comprends même pas comment ça fait qu'il court encore.
C'est incroyable.
Donc, il y a moins de talent qu'il y avait en Italie, certainement, pour les défenseurs. Et je pense en général, honnêtement.
Ouais, c'est clair. C'est qu'il y a une petite période creuse, mais ils n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde. Je pense que ça veut dire quand même quelque chose de. C'est très, très gros là, que l'Italie n'ait pas une Coupe du Monde.
Il y a une autre génération qui s'en vient parce que l'Italie est toujours dominante dans les Coupes du Monde 2021 et ainsi de suite. Donc, je pense que, bon, on peut espérer. Mais je pense pas que défensivement, ce sera la nation. Tu vois qui, justement, prendre cette place-là d'équipe qui va gagner par sa structure défensive, qui va être capable de mener le jeu, mais en même temps, laisser l'adversaire se commettre pour profiter des occasions?
Ben, les Pays-Bas, je pense qu'ils ont l'équipe pour le faire. Tu sais, t'as Van Dijk et De Ligt, comme les paires de centrales qui, sur papier, là, pourraient devenir une des meilleures au monde. Puis devant, t'as des flèches, tu sais, t'as des Depay, t'as des Kluivert. Je sais pas c'est qui le neuf maintenant. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je peux écouter le foot. Mais tu sais, je pense que c'est une équipe peut-être qui ont leur vedette en ce moment, c'est des défenseurs centraux. Fait que je pense que ça va être un peu la stratégie. Après, t'as des De Jong au milieu de terrain aussi. Donc, puis ouais, David aussi, l'Angleterre. Mais Maguire, je trouve qu'à United, il se fait un peu exposer. Après, il joue avec Lindelof, puis Shaw. Puis je sais même pas qui le défenseur droit. Fait que c'est un peu compliqué.
Ben, ça, c'est des jeunes là, qui tournent. Là, mais...
Ouais, c'est ça. Mais avoir les jeunes qui vont produire, tu sais. Je sais que, bon, les Anglais, le truc, c'est qu'il y a toujours des bons jeunes. On entend toujours qu'il y a des bons jeunes anglais, mais...
Ben, la Ligue est là aussi, tu sais. Ils ont tout ce qu'il faut. Tiens, une équipe de championship est quand même peu dominante à travers les autres championnats. Pas nécessairement gagné, mais quand même compétitif. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais à cause des moyens financiers, probablement l'équipe de deuxième division peut En fait, la ligue de deuxième division la plus performante, à mon avis. Fait que, ouais, si tu développes des gars, des gars là, tu développes des gars en première ligue.
Ouais.
Mais non, en thèse, David, je pense que l'Angleterre, c'est quand même intéressant.
Après, aussi, dans le même, peut-être pour l'argument que j'avais pour les Pays-Bas, s'ils ont une défense assez solide, tu as des Sterling qui partent devant vite, tu as des Marcus Rashford devant vite. Fait que, tu sais, si une équipe pourrait jouer la contre-attaque, ce serait intéressant que ce soit l'Angleterre aussi. Mais sinon,
mais l'Angleterre a des bons milieux aussi. Ils ont quand même beaucoup de potentiel. Pour moi, leur Madison peut être vraiment intéressant sur le long terme. Ils ont quand même quelques joueurs intéressants.
Après, tu vois, la France et le Portugal, ils ont gagné la Coupe du Monde et l'Euro comme ça, en profitant des erreurs adverses.
Ouais. Ben, le Portugal, c'était l'équipe parfaite pour la contre-attaque. La France, je pense qu'il y avait
plus Mbappé en contre.
Ouais, mais ils ont plus de talent. Si jamais ça ne fonctionne pas, je pense que. En fait, pas nécessairement plus de talent, mais ils ont plus de joueurs avec du talent disponible pour intégrer l'équipe. Mais le Portugal avait une belle génération aussi dans les dernières années.
Ouais, ils ont encore une belle génération. Puis il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent. J'oublie son Florentino Luis, Philippe Luis qui joue au Benfica, un 6, super fort. Ouais. Ben, au Benfica, pour toi, tu as toujours 4 gars par année qui sont super bons et qui sortent. Là, des Bernardo Silva, que tu n'entends pas parler de lui. Puis après, le gars est super fort. Il sort City en Champions League. Ok, cool. Tu as joué en Félix. Il est adolescent avec ses broches, il met 25 buts au Portugal. Cool. Incroyable.
Ils ont toujours moyen de sortir un petit crack comme ça. Et moi, pour finir là-dessus, mon crack préféré à l'époque, c'était William Carvalho.
Ah, il était trop fort.
J'aimais ce gars-là. C'est une vraie tour de contrôle. Ballon, boum, 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 boum. Quand je l'ai vu jouer justement à la Coupe 21, je pense que c'était contre l'Espagne. Le gars était tellement fort. Ouais. Mais il était en avance physiquement aussi parce qu'il était plus vieux. C'était un des joueurs les plus vieux du tournoi.
Je me rappelle, on en parlait au Barça, Carvalho au Barça et tout, on va payer 60 millions. Moi, à l'époque, quelques années avant, moi, au Portugal, c'était Miguel Veloz. Là, il était trop fort. Il jouait 6, après, il a fini défenseur gauche, c'était un flop. Mais je me rappelle sur FM aussi, il devenait genre, le meilleur milieu de terrain au monde. Mais genre, il joue au Sporting, il était trop bon. Il était super bon. Super bon.
Ouais. Non, mais écoute, ça conclut notre premier débat de l'édition Lopo Vadano 2.0. Écoute, on vous demande à tout le monde, mettez en commentaire le défenseur que vous préférez de la décennie 2000 à 2010. Alec, on se retrouve pour un prochain épisode.
Yes, avec plaisir, Fred. Hein.
Avec plaisir. On va espérer que vous avez apprécié ce podcast-ci. Un peu long aujourd'hui, mais on avait beaucoup de choses à dire. C'est quand même une des premières fois qu'on se parle depuis un moment de foot, moi et Alec. Donc, on espère que vous avez apprécié tout ça. On se retrouve dans quoi? Dans une semaine environ?
Ouais, une petite semaine, ouais.
Histoire d'avoir un peu d'actualité foot. Donc, on espère que vous avez apprécié.
La prise s'en vient aussi. Donc, on va avoir énormément de choses à dire, énormément de matchs à voir. Enfin,
effectivement. Donc, prenez soin de vous, la famille, puis on se retrouve dans un prochain épisode du Lopo Vadano. Ciao tout le monde.